L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion. Auditeurs de Rencontre Lusophone, l'émission qui tous les samedis, en début de soirée, vous propose de mieux connaître le Portugal. Et nous émettons à partir des studios de Radio Résonance à Bourges sur la fréquence 96.9. Aujourd'hui, petit comité restreint puisque nous inversons les rôles. Le chroniqueur passe à la technique et le technicien vient au micro comme chroniqueur. Bonjour Manu, ça va aujourd'hui? Ah, t'es bien, pas trop stressé? Un petit peu? Ok, donc ce soir, Hélène est au travail. Donc pendant que le chat n'est pas là, bah, les souris dansent, n'est-ce pas Manu? Non, bon, on va être sage quand même, on est pas des... Et elle a enregistré son coup de gueule, donc bon courage, nous pensons bien à toi. Bon Manu, estás pronto? Bon bah allez, le mot magique c'est quoi? Bora!
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. Dans les médias, depuis quelques mois, on nous parle très souvent de l'amélioration de l'économie portugaise. Un essor que l'on qualifie d'ailleurs aisément de miracle européen. Mais comme par expérience, on sait que souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt, je suis en droit de me poser quelques questions. Alors cet essor économique est-il réellement un miracle ou simplement un mirage? Et s'il existe vraiment, ce miracle n'a-t-il pas atteint ses limites? Et enfin, l'économie d'un pays peut-elle être source de bonheur pour sa population? Alors oui, il est malin ce gouvernement qui se laisse appeler la géringonce, parce qu'en acceptant ce terme tout d'abord péjoratif et qui désigne un truc biscornu mal défini, il a réussi à le contourner en revendiquant à son propre compte le caractère non orthodoxe des mesures qu'il a mises en œuvre. Alors oui, c'est vrai, arrivée au pouvoir en 2015, cette nouvelle majorité a réussi à remettre en cause l'austérité préalablement menée par le gouvernement social-démocrate de Pedro Passos Coelho et subie par le pays depuis plus de 3 ans. Et oui, le Portugal a enfin réussi à sortir de sa procédure pour déficit excessif dans laquelle il se trouvait depuis 2009. Et oui encore, le salaire minimum a pu être relevé, les minima sociaux élargis et les impôts sur les classes moyennes allégés. Et oui, en faisant sortir son industrie textile du modèle de production low cost dans laquelle elle était sinistrée pour conquérir de nouveaux marchés haut de gamme, le gouvernement a réussi un coup de maître. Et enfin oui, le Portugal a réussi grâce à son programme de relance à relancer son taux de chômage qui est passé sous la barre des 8% alors qu'il culminait à plus de 17% en 2013. Mais tiens, justement, ce chômage en baisse et des déficits historiquement bas ne pourrait-il pas masquer une autre réalité? Avec une hausse des emplois précaires, par exemple? Quelques spécialistes prédisent déjà que le Portugal doit rester sur ses gardes. Ainsi, selon eux, la baisse du chômage cacherait en fait une réalité un peu plus sombre. Car bon nombre des emplois créés dernièrement au Portugal seraient en réalité des emplois précaires et peu qualifiés dans des secteurs tels que le tourisme, dopé aux investissements étrangers dont on connaît la volatilité et la versatilité. Et il ne faut pas oublier que même si le Portugal a su se différencier par des politiques mises en œuvre, il est toujours ancré dans une logique de rigueur budgétaire imposée par Bruxelles. On peut donc craindre que ce modèle économique, encensé par le gouvernement, reste artificiel et ne rende compte que d'une amélioration relative de la situation. En effet, il suffit de lire les journaux portugais pour s'apercevoir que tout ne va pas comme dans le meilleur des mondes. Les universités portugaises sont bel et bien au bord de la faillite et des hôpitaux en manque cruel de personnel. Alors ce prétendu miracle portugais reposerait donc en réalité sur un mirage ? Attention, c'est dans le succès que nous sommes les plus aveugles. Par expérience, on sait très bien que quand on croit que tout va bien, nous baissons notre seuil de capacité critique. À quoi ça sert de vouloir absolument gagner à 100 mètres si pour y arriver, on a été obligé de nous pousser ou de le finir en voiture ?
viajante que se entrega num instante por aí aonde for. Acha que sabe bem o que eu preciso, prende-se a qualquer sorriso sem motivos de maior. O meu coração é inocente, pensa que a vida é um mar de rosas, mas eu que vi espinhos em toda a gente, afasto essas certezas duvidosas.
Meu coração é um bicho muito estranho que se esconde e não responde a quem chamar. Alérgico ao exterior, vive na toca onde se esconde e sufoca por não ver entrar o ar. O meu coração vive trancado, diz que atirou a chave ao mar. E eu que a procurei por todo lado, só me resta assim continuar.
Coração triste, não me arrastas em teu passo. Meu corpo insiste em decidir o que faço. Se eu vir que sinto, diz que não. Eu cá vou bem sem coração. Entre o morrer de amor e o viver nesta prisão. Coração louco, não me imponhas o teu vício. Que a pouco vou cedendo ao sacrifício. É que eu sei bem se acordares e procurares por aí, encontras outro coração para ti.
Moras muito ou quê? O meu coração é uma criança ansiosa pela dança de quem lhe estender a mão.
Mas este é caprichoso e inclusivo, analista compulsivo que não chega à conclusão.
O meu coração segue as novelas, jubila com as falas das atrizes.
O meu carrega histórias de mazelas e afasta-se desses finais felizes.
Coração triste, não me arrastas em teu passo. Meu corpo insiste em decidir o que faço. Se eu vir que sinto, diz que não. Eu cabo bem sem coração. Entre o morrer de amor e o viver nesta prisão. Coração louco, não me imponhas o teu vício. Que a pouco vou cedendo ao sacrifício. É que eu sei bem se acordares e procurares por aí, encontras outro coração para ti.
Respeito, mas não me deu ouvidos, perseguiu naquele jeito.
Mudei para as ameaças, tentei que usasse a razão, mas é palavra estranha para o meu pobre coração.
Farta desses maus tratos, fiz as malas e parti, e logo te encontrei com o mesmo mal do que eu sofri.
A mesma frustração, a mesma pose, o mesmo olhar, e então toque senti no meu corpo outro pulsar.
Juntos rimos de tudo, só chorámos nas novelas, fingimos ser crianças e dançámos como elas. Perdemos noite e dia e entre histórias e canções, juntámos nomes, gostos e moradas, e quase sem dar por nada encontramos corações. Coração triste, não me arrastas em teu passo. Meu corpo insiste em decidir o que faço. Se eu vir que sinto, diz que não. Eu cabo bem sem coração. Entre o morrer de amor e o viver nesta prisão. Coração louco, não me imponhas o teu vício. Que a pouco vou cedendo ao sacrifício. É que eu sei bem que se acordares e procurares por aí, encontras outro coração para ti.
Encontras, encontras.
Corações bons eram antigamente.
Vais ver que encontro.
Já não há disso.
Ainda há.
É tudo modernice.
Procura bem.
Água e sabão. E a pagar em 10 meses.
Vai à feira da ladra dos corações.
Não tem essência.
Tem, tem.
Não tem estrutura.
Vais ver que tem.
Não são tenazes.
Arrisca.
Não presta.
Ah, presta.
C'est l'heure de la chronique culturelle.
De rencontre lusophone.
Aujourd'hui, je vais vous parler de O Patio das Cantigas, en anglais The Courtyard of Songs. C'est un film portugais de 1942, réalisé par Francisco Ribeiro, musique de Frederico de Freitas. Il met en scène les habitants de plusieurs logements réunis dans une cour, un patio, ou un patio, dans un quartier typique de Lisbonne. Il est doté d'une riche distribution d'acteurs connus, issu du théâtre, comme en témoigne la façon de jouer très théâtrale, avec Vasco Santana, Antonio Silva, Laura Alves et Ribeiro. On peut voir aussi Antonio Silva, Antonio Villar, Armando Chagas, Barroso Lopes, Carlos Alves, Carlos Otero, Eliezer Kamenetsky, Francisco de Castro, Graça Maria, Maria da Graça et Maria das Neves. Voici le générique, maestro. C'est une des plus emblématiques comédies de l'âge d'or du cinéma portugais. Je vous ai déjà parlé de Cansao de Lisboa et de Costa de Castelo. Je les considère, à mon avis, comme la trilogie la plus célèbre du cinéma portugais des années 40, bien qu'il n'ait pas de rapport entre eux. Ces trois films sont au top du cinéma portugais. Bien sûr, pour les histoires, bien sûr, mais surtout pour la musique. Moi, je suis un fan de musique. On ne compte plus les chansons de ces trois films qui sont devenus des tubes et tombés naturellement dans le folklore national.
Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela. Cantando a Florisbela, oh, a Florisbela. Convidei-o a voltar por acaso em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia.
Oi, Brist!
Apareceu pro
dormir.
Estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado pra pensar. Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão com reco-reco na mão. Mais tarde encontrei num café Zurrapa do Largo da Lapa, mulhão de raça, bebendo o quinto copo de cachaça. Isso não é chalaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, oi, a jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava azul de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. Ele roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis pegar comigo, que perigo, mas não digo. O meu pedaço me domina, me fascina, ele é o tal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa amarela, botou fogo nela. Gosto dele assim, acabando a brincadeira, ele é só pra mim, meu senhor do bom fim.
Il y a aussi la trilogie plus moderne, les nouveaux classiques, qui se composent de Patio das Cantigas, Cansao de Lisboa et O Leão da Estrela. Deux d'entre eux ont fait l'objet d'une réadaptation récente, Patio das Cantigas en 2015 et de Lionel Vieira et Cansao de Lisboa par Pedro Varela, en 2016. Il n'y a pas d'histoire cohérente. Patio das Cantigas étant composé d'un grand nombre de personnages ayant des relations différentes. L'accent est mis principalement sur l'exploration de différents épisodes de la vie quotidienne, dont le charme réside en grande partie dans la possibilité d'observer un quartier de Lisbonne dans les années 40. C'est un écheveau d'histoires et d'amourettes croisées, saupoudré de nombreuses scènes de comédie, parfois hilarantes. Le scénario est basé sur un ensemble de dialogues pleins d'esprit, riches en insinuations et d'expressions à double sens.
Então eu fico sozinho, só se dançar o rasga. Quem foi que arranjou uma música toda cantada, rara, passeada? Quem foi? Quem foi?
Ce film restitue l'atmosphère d'un voisinage populaire d'une cour de Lisbonne pendant la célébration des saints populaires, ambiance berista, remplie d'archétypes, mélangeant querelles, confrontations et ambitions. C'est la vie d'une poignée de gens simples, vivant leur quotidien, leurs rêves, déceptions, passions, jalousie et joie, dans une atmosphère presque enchantée. C'est un portrait édulcoré de Portugais anonymes des années 40, agrémenté de chansons et de fado qui exaltent les valeurs nationales pour ne pas aller à l'encontre de la dictature et de ne pas être censuré par l'inspection culturelle. À noter que les intérieurs du film ont été tournés à Coimbra. Thank you. Voyons maintenant les protagonistes. Narciso, le père de Rufino, est le partenaire d'Alfredo dans les cafés alentours, un ivrogne chronique et un virtuose de guitare. Narciso fait la cour à Rosa, une veuve joyeuse qui vend des fleurs.
Tenho medo sempre que o canto, pois aprendi muito cedo qual o segredo do seu encanto. Quem escuta o fado não sabe a quanto lhe cabe da nossa voz. Parece que uma vozinha sozinha dentro de nós. Oh, vida como fala uma fatal canção, nostálgico trinar do amor que nos amarra. Por isso a alma chora e tem o coração a forma singular. Gente que não sente nem acredita que esta canção portuguesa é com certeza a mais bonita, mas vi crescer num momento o sentimento de quem o canta. E a gente queira não queira, a alma inteira sobe a garganta. A vida como um fado, uma fatal canção, nostálgico trinar do amor que nos amarra. Por isso a alma chora e tenho o coração a forma singular.
Evaristo, l'épicier, est désagréable et arrogant, et il est le père de Céleste, envieuse et gâtée. Il fait aussi la cour à Rosa, lui aussi, la veuve joyeuse qu'on appelle Marie des Neiges. C'est un triangle amoureux typique, dont la conclusion peut être prévisible, mais qui ne manque pas de fournir des interactions amusantes entre Santana et Silva. Evaristo se heurte constamment au reste du quartier lorsqu'il met dans son épicerie de la musique classique sur son phonogramme au lieu de chanter ou d'écouter de la musique portugaise. Voici un exemple de musique qu'il écoute.
Muito bem! Senhora Rosa, eu estou absolutamente desincronizado com as suas palavras. Mas por ser a senhora Rosa que me pede, eu vou imediatamente mandar calar o italiano.
Que pena o senhor Evaristo sofrer de fim.
Ce n'est pas le seul conflit amoureux. Il y a aussi Alfredo, Carlos Otero, un garçon amoureux d'Amalia, Maria Paula, une fille frivole portant le même prénom que la célèbre Amalia Rodrigues, et qui, comme elle, est une chanteuse de fado talentueuse. Malheureusement pour Alfredo, Amalia rencontre son frère, Carlos Bonito, Antonio Villar. Comme son nom l'indique, Bonito est populaire auprès des filles du quartier. Mettant cela à son talent à la guitare, son ego est assez gonflé. À son tour, Susanna, Grace Mary, la sœur de Amalia, est amoureuse d'Alfredo. Ce qui suit dans le film est un jeu de quiproquo et de discordance. La rivalité entre Narciso et Evaristo atteint son apogée au cours d'une nuit de danse, de beuverie et de fête dans la cour, et se finit en bataille rangée. De plus, l'excellent moment où les personnages commencent à se battre finit par avoir un but autre que celui de s'amuser. Dans cette séquence, les enfants jettent des pétards et Rufino tire des bouchons de bouteilles de champagne de manière à faire référence à la guerre qui se déroulait à l'époque en Europe. Cela rappelle au peuple portugais que, comme le pays n'était pas entré en guerre, leur seule préoccupation était des petits désaccords. Enfin, tout se calme entre les couples et la vie reprend sereine dans le patio. Grande chanson maintenant, vous allez voir, très belle, très agréable à l'écoute.
Por tu amor, yo te ofrecí mi rancho campero que hoy destruí. Yo prendé mi caballo retinto, mi daga y mi cinto de charro cantor. Con pasión y con fervor te di mi guitarra de trovador. Manolito, olvidaste que fui el amor de tu vida. Preferías la muerte por suerte antes de abandonarme. ¿Quién diría que ahora otro amor en tu pecho se anida? En mis noches de locos desvelos me muerden los celos que siento por ti. Andar en mi corcel hacia aquel rancho donde la infiel me inspiró las estrofas mejores y cantos de amores que debo olvidar. El
la voz de mi cantar, mis cuadras malditas has de escuchar. Manolita, olvidaste que fui el amor de tu vida. Preferías la muerte por suerte antes de abandonarme. ¿Quién diría que ahora otro amor en tu pecho se anida? En mis noches de locos desvelos me muerden los celos que siento por ti. Ay, 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 Manolita, me mintió tu boquita, imposible poder resignarme y habituarme a vivir sin tu amor. Manolita, olvidaste que fui el amor de tu vida. Preferías la muerte por suerte antes de abandonarme. ¿Quién diría que ahora otro amor en tu pecho se anida? En mis noches de locos desvelos me muerden los celos que siento por ti.
Quelques dialogues sont devenus des références du cinéma, inscrits dans l'imaginaire collectif, comme en France avec nous, Atmosphère à Atmosphère, ou Bizarre, vous avez dit Bizarre, tel celui de Vasco Santana, rentrant à la maison, ivre, et essayant d'allumer sa cigarette à un réverbère, et qui discute beaucoup avec le réverbère, ce qui le guidera au lit. Ou bien, les taquineries d'Antonio envers l'épicier, qui se fâche dès qu'on lui demande s'il a tel ou tel produit, le tube, quoi. Evaristo, tenscadisto.
Pescadisto.
C'est l'une des comédies les plus aimées et les plus considérées du cinéma portugais. Ce film représente la convergence des top talents de l'époque, avec notablement Ribeirinho, qui a dirigé le film, son frère Antonio Lopes Ribeiro, qui l'a produit, et les deux ont écrit le scénario avec le concours de Vasco Santana, l'immense vedette de l'époque. Ce fut la seule fois où ils ont travaillé les trois ensemble, et le seul réalisé par Ribeirinho. Le reste de l'Europe pouvait être en guerre, mais le Portugal jouissait de la paix avec la comédie de Vasco Santana. Écoutons une chanson, une belle chanson aussi, avec quelques paroles en français, s'il vous plaît.
Este negócio de I love you, de mon amour, de Paris, eterno. Esta conversa para estrangeiro, e não fica bem para o bom brasileiro. É bem melhor, é muito mais bonito, quando se rouba o rofagão aflito. Dizer baixinho junto da pessoa, você morena é um bocado boa. Um adeusinho é mais interessante, que você vai falar de mau inglês. O meu amor, em vez de mon amour, só eu te amo, I love you. Não admito nem por brincadeira, chamar dinheiro de lorjão, tu jure. É preferível se dizer assim, é. Estou anéis e teu meu virique fica morena, olha pra mim. É bem melhor, é muito mais bonito, quando se rouba um rafagão aflito, dizer baixinho junto da pessoa.
Não posso.
Você morena é um bocado boa. Adeusinho é mais interessante. Você vai falar de mau inglês. O meu amor, em vez de mon amour. Sou o te amo, now, I love you. Não admito nem por brincadeira. Chamar dinheiro de lorjão, tu jure. É preferível se dizer assim. Eu estou anéguito do biriqui. Que negócio de ai, I love you.
I love you.
E mon amour de Paris, je t'aime.
Je t'aime,
je t'aime, je t'aime. Estrangeiro. E não fica bem para o bom brasileiro. Melhor é muito mais bonito, quando se ouve um rapa com aflito, dizer baixinho junto da pessoa, você morena, cá pra nós, é um bocado bom.
Comme son nom l'indique, Patio das Cantigas est un film mélodique. Mais même lorsque quelqu'un ne chante pas de chanson ou ne joue pas de guitare, quelqu'un siffle. Et cet air rentre dans la tête et ne nous quitte plus. Dommage que les aspects techniques ne soient pas de la même qualité que les chansons. Le Portugal n'avait évidemment pas le même équipement que les productions réalisées à l'époque aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne ou en France. Mais il y a des endroits où le son disparaît dans son intégralité, vous avez dû remarquer. Hein. Cela n'arrive pas aussi longtemps que dans Cansao de Lisboa, mais c'est un défaut perceptible. Les quelques scènes qui ont vraiment été bien filmées et montées sont celles qui se déroulent pendant les festivités. Écoutons un morceau que je trouve un des meilleurs. Le thème mélodique est superbe. Il ne faut pas oublier que j'ai supprimé des dialogues, ce qui peut sembler haché et décousu. Prenons-le comme des extraits mis bout à bout, mais laissons-nous bercer. Soit, le Patio das Cantigas est un produit de son époque, avec des acteurs célèbres sur la scène nationale, jouant le même rôle auquel ils étaient déjà habitués. Ce n'est pas comme s'ils avaient eu un travail très difficile. Cependant, il est visible qu'ils s'amusent, tout en essayant de faire en sorte que les spectateurs s'amusent aussi. Le fait qu'il s'agisse d'un produit des années 40 s'avère aussi un aspect positif, car il offre une vue sur la manière dont la société portugaise s'est idéalisée. Il reste beaucoup de musique, mais hélas, avec des dialogues donc inexploitables. Écoutons le final. Alors, c'est le sacré tube, le tube Sangement, devenu un classique.
Deus terá cordeiro, e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José. Santo António já se acabou. O São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar.
Santo António já se acabou. O São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar.
Thank you. Since you lied to me
once. A Santa Alegria da gente de Portugal.
Da gente de Portugal.
Ouve a nossa canção e livra de todo o mal, meu rico São João.
Santo António já se acabou.
O São Pedro está a se acabar.
São João, São João, São João.
Dá cá um balão para eu brincar.
Santo António já se acabou.
O São Pedro está a se acabar.
São João, São João, São João.
Dá cá um balão para eu brincar.
Partir de repente é melhor.
Si vous étiez présent depuis le début de cette émission, vous avez certainement compris que le film Au patio das Cantigas, le patio des chansons, au centre de ma chronique, se déroulait en grande partie dans un patio typique de Lisbonne. Un endroit où les gens vivaient en communauté et en harmonie, et où le rythme de vie était à cheval entre celui de la ville et celui de la campagne. Aujourd'hui, avec l'effervescence du marché immobilier, on peut craindre que ces oasis de vie typiquement lisboètes ne tendent à disparaître. Eh bien, figurez-vous que pas tant que ça, puisqu'aujourd'hui, des architectes essaient de réinventer la vie de quartier du siècle passé en l'adaptant à notre vie actuelle. C'est en tout cas ce que s'évertue à faire l'architecte portugais Manuel Graça Dias dans le cadre de l'initiative Better Neighborhood. Vivant près de la Calçada da Estrela à Lisbonne, Manuel Graça Dias avoue qu'il ressent certains des problèmes qui affectent les quartiers de Lisbonne, puisqu'il affirme par exemple qu'il lui est déjà arrivé d'abandonner l'idée d'aller faire un tour au Bairro Alto pendant les fêtes populaires, parce qu'il sait que tout est déjà pratiquement au service des touristes. Et ce n'est pas le seul à avoir cette nostalgie de la vie d'antan. Et notamment dans les trois ou quatre plus grandes villes portugaises comme Lisbonne, Porto, Coimbra ou Braga. Pour l'instant, dans les petites villes, cette nostalgie n'existe pas encore, car les gens y ont facilement un rythme de vie plus calme. Alors aujourd'hui, cet architecte essaye de rendre une vie de quartier dans une grande ville comme Lisbonne. Il tente de réactiver le rythme de la province, mais avec un côté plus cosmopolite. En faisant en sorte, par exemple, que les habitants puissent, après une promenade, avoir facilement accès à une grande diversité culturelle. Alors maintenant, j'ai envie de m'attarder sur ces quartiers de Lisbonne où l'on retrouve encore des patios et où, grâce à des personnes comme cet architecte, on aura peut-être la chance de retrouver quelques recoins tranquilles. Mais voyons d'abord un peu l'origine de ces endroits privilégiés. Il n'existe en fait aucune trace historique de l'apparition des premiers patios à Lisbonne, mais on sait qu'ils sont apparus dans la civilisation arabe. En tant que société fortement liée à la communauté, les patios permettaient non seulement la coexistence entre voisins, mais également la lecture et l'enseignement du Coran dans un environnement intime. Au XIIe siècle, lors de la conquête de Lisbonne, les patios se sont transformés en fermes ou en petits jardins. Lisbonne était alors une ville qui grandissait sans planification, au-delà des murs qui se dispersaient dans les vallées au pied de la colline de Castelo et d'Alfama, avec des bâtiments à la mesure des besoins, signes du temps qui perdureront tout au long du Moyen-Âge et qui se poursuivront jusqu'au tremblement de terre de 1755. La cour médiévale est devenue un substitut du fameux patio arabe. Au XVe siècle, les patios perdent leur statut intime pour faire partie de la grande agitation des villes portuaires et commerciales. Et c'est dans la partie la plus ancienne de la ville que les changements les plus significatifs ont lieu. Les patios sont alors occupés par une population plus pauvre, ce qui les rend moins aptes à l'habitation, et il apparaît également de nouveaux types de patios résultant de l'occupation de vieilles cours des palais laissés dans l'oubli. Jusqu'au XXe siècle, ces espaces serviront à la fois de logements et de bâtiments. Avec l'émergence de l'industrialisation, la ville de Lisbonne accueille une population de travailleurs. À la recherche d'un lieu d'hébergement, ces logements, généralement fournis par les propriétaires eux-mêmes, sont appelés des villas, qui ne sont que des courtes contemporaine, composée généralement de deux ou trois étages, séparés par une rue et isolés de l'extérieur par une porte. C'est au cours de ce siècle que les cours, autrement dit les patios, ont été considérés comme un espace social important dans le milieu architectural portugais. Elles sont composées de personnages réels, de peines et de joies semblables à celles de ceux qui les habitent, mais c'est finalement la joie qui règne, valeur de ces organismes vivants. Voici pour l'historique de ces lieux devenus aujourd'hui des endroits d'habitation privilégiés. Mais peut-on en trouver à Lisbonne ? Ne décrochez pas tout de suite. On écoute une chanson et je vous dirai ça tout à l'heure. Un titre tout trouvé pour ma belle Hélène absente ici, mais présente dans mon cœur. A Bella Helena, Be Fachada. Thank you.
Eles eram bons irmãos, não de sangue, mas por afinidade. Um do campo, outro da cidade, a eles eram como irmão. Até que um dia a bela Helena se cruzou na vida dele, e entre os irmãos veio a primeira dispersão. Eles eram bons irmãos, mas nem tanto assim para dar as mãos. A bela Helena era uma flor de maçapão, e como o que ela queria deles era também estabilidade. Cada irmão rezava ao outro piedade, lealdade e compaixão. Eles eram como irmãos, aí eram bons irmãos. E como a Helena era formosa, com a ajuda da beleza e da deusa da paixão, escolheu só um, deixou os dois sofrendo em vão, 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 vão. Quando há cobiça entre irmãos por alguém, sofre o que tem e sofre o que não tem também. Quando há inveja entre irmãos por alguém.
Voyons donc où l'on peut encore retrouver quelques patios dans Lisbonne. Il y a tout d'abord le quartier de Grasse, le patio de Villa Souza, situé au 82 du Largo de Grassa, construit en 1890. C'est un bâtiment de grande taille qui occupe une grande partie de l'îlot et présente une façade extérieure décorée de carrelage. L'accès se fait au moyen d'une porte en fer et à l'intérieur, elle est entourée de maisons contiguës de 2 et 4 étages. Puis le patio de Villa Berta, situé sur la Rua do Sol à Grassa. Il s'agit d'un ensemble constitué d'une grande rue bordée de maisons bordées de deux côtés, offrant une agréable sensation de lumière et d'espace. Les maisons sont réparties sur 2 étages et l'autre sur 3 étages avec des balcons en fer. Les résidents lui ont donné une empreinte assez intime en les décorant de plantes et de fleurs. Puis, le patio de Barbosa, situé à cheval entre la Travessa das Monicas et Calçada da Graça. C'est l'un des rares bâtiments à ne pas s'être effondré avec le tremblement de terre. Il comprend le palais des seigneurs de Trofa, dont la façade principale est maintenue malgré quelques modifications. Le portail d'entrée mène à un couloir sous le palais et est soutenu par un arc parfait. Le quartier d'Alfama, sur le versant sud de la colline du château, conserve lui aussi l'urbanisation médiévale de l'influence arabe. Le terme maure « Alfama » désigne d'ailleurs « agglomération » ou « refuge ». Après la conquête de Lisbonne en 1147, Alfama fut peuplée de chrétiens et les habitants maures furent déplacés au nord. C'est un quartier populaire avec quelques édifices religieux importants et entourés de palais, se terminant dans les entrepôts historiques à côté du Taj. Le tremblement de terre de 1755 l'a peu affecté et il reste une des zones les plus pittoresques de la ville. Le film de Francisco Ribeiro, Patio das Cantigas de 1942, dans lequel le quartier, les commérages, les amours et les désamours qui reflètent des aspects liés à la vie des cours, contraste en quelque sorte avec un certain romantisme perdu du nouveau noyau urbain. Pour en revenir au Patio de Lisbonne, il y a le Patio des Cuisines, qui a reçu le nom de la rue qui lui donne accès et est situé à l'intérieur de l'enceinte de l'Alcazaba. Il correspond à l'ancien manoir Pombaline, transformé en unité hôtelière. La zone ne se limite pas au palais, mais aussi au vieux jardin. Toute la zone est décorée avec des carreaux de la seconde moitié du XIXe siècle. Le mur du haut du patio est décoré de scènes bucoliques et rurales, allusives à deux saints, São Francisco de Paula et São Marçal. Il y a aussi le patio de José Pedreira, situé sur la Rua de Santa Cruz do Castelo. Cette cour conserve de nombreuses caractéristiques mauresques. Le rassemblement est assuré par le haut mur et les maisons sont reliées à l'extérieur par une porte. Il ne manque rien du patio, du puits, du potager, de la place pour les animaux. La demeure semble avoir été une ancienne demeure palatiale du XVIIe siècle, bien que très modifiée, ce qui n'explique pas pour autant sa date de la formation. Le patio de da Passacia, également connu sous le nom de patio da Sociedade, situé dans la paroisse de Santa Cruz do Castelo. Le nom original est dû à une sage-femme bien connue de la paroisse. L'enceinte appartient à un ancien palais du XVIe siècle. Il y a des restes de traces maniéristes dans la façade principale et dans la façade postérieure. Dans ce dernier, qui donne accès à l'intérieur, on peut observer, dès la période pombaline, des panneaux de tuiles. Il y a aussi une maison à deux étages qui sert d'habitation. Bon, on peut continuer longtemps, mais je crois qu'on va arrêter là, parce que là, je vais finir par vous saouler. Cette liste de patios est bien loin d'être exhaustive. À vous d'en découvrir d'autres lorsque vous irez à Lisbonne.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9, c'est Radio Résonance.
Eh oui, c'est fini. Rencontre lusophone pour aujourd'hui. Merci Manu. Bon week-end à tous. On revient évidemment samedi prochain à la même heure. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Résonance. Manu, tu voulais dire au revoir ?
Oui, bah oui. Rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous ici même demain et samedi prochain à partir de 18h. Sans oublier le podcast de l'émission sur la page de Radio Résonance et sur notre page Facebook. Elle s'appelle Rencontre Lusophone avec un S. Et vous y trouverez dans à peine deux petites heures le lien pour podcaster cette émission. Bonne semaine à vous tous et à la prochaine.